Une information politique pour débuter ce journal. Pascal Martin va se présenter aux élections municipales de Vire-Normandie en mars 2020. Les Virois devraient donc de nouveau connaître l'éternel face-à-face entre Marc-André Sabater et Pascal Martin. Et cette fois-ci, ce sera dans le cadre des municipales de mars de l'année prochaine. En effet, déjà face au maire sortant dans les élections départementales, Pascal Martin, le médecin virois, va donc de nouveau tenter sa chance, mais cette fois en emmenant une liste aux prochaines élections municipales. Son parti politique Agir vient de le désigner en tant que chef de file pour la commune de Vire-Normandie pour former donc cette liste. Ce n'est pas une surprise car Pascal Martin avait depuis plusieurs mois pris des contacts afin de former cette liste. De son côté, Marc-André Sabater n'a pas encore annoncé lui s'il se représentait pour un nouveau mandat. Et dire qu'au mois de mai dernier, Marc-André Sabater soutenait la liste En Marche aux élections européennes, une liste où on trouvait un certain Pascal Martin. Les deux hommes soutiennent en effet au niveau national la politique d'Emmanuel Macron, mais visiblement n'ont pas la même vision politique sur le territoire où ils habitent. Bref, affaire à suivre, mais la bataille des municipales est donc officiellement lancée en plein mois d'août. La ville de Vire-Normandie et l'Office du tourisme du Bocage normand proposent depuis le début de l'été à la Porte Horloge une exposition sur Vire avant les bombardements et une autre sur le Calvados pendant l'occupation. Déjà près de 1500 personnes ont été accueillies dans l'édifice virois. Pour justement les recevoir, l'Office a fait appel à Lorraine Lecourt. Âgée de 23 ans, Lorraine habite la Graverie et elle poursuit ses études de lettres modernes pour devenir journaliste. Elle profite donc de ce job d'été pour aller à la rencontre du public. Ce n'est d'ailleurs pas une première pour elle, puisqu'elle avait déjà assuré l'accueil de la Porte Horloge il y a 2 ans. Lorraine Lecourt.
Alors, il y a beaucoup de fréquentations. Après, tout dépend des jours. C'est vrai que bon, la semaine dernière, avec la vague de chaleur, j'ai pas vu beaucoup de monde, mais depuis, ça repart à la hausse. Et donc, oui, j'ai beaucoup de questions au quotidien, surtout sur l'histoire, en fait, de la Porte Horloge, à quelle date elle a été construite, à quoi elle servait, tout ce genre de questions. Aussi, un petit peu sur l'histoire de la ville, plus globalement. Et aussi, ben, les choses qu'on peut faire survivre, vraiment toutes ces questions au quotidien, vraiment plein de visiteurs qui ne savent pas trop ce qu'ils peuvent faire à Vire, et donc j'essaie de les éclairer, de leur dire un petit peu voilà, ce qu'ils peuvent faire ici. Beaucoup de gens qui ont vu l'exposition, qui redescendent et viennent m'en parler, me disent « Oh, mais sur les photos, on a vu qu'avant, la ville, en fait, les maisons étaient très accolées à la Porte Horloge, au mur, tout ça. C'est drôle, ça a beaucoup changé. » Alors j'essaie de leur expliquer qu'après les bombardements, en fait, la ville a été reconstruite d'une manière totalement différente et que maintenant, bah, c'est plus espacé, que les bâtiments ne sont plus du tout accolés, etc. Et ça surprend beaucoup les gens, la différence. Et on me dit souvent que bah, l'architecture d'autrefois avait quand même son charme. Et c'est vrai qu'en regardant les photos, oui, c'était une ville très charmante avant les bombardements. Oui. Personnes de Vire qui viennent parce qu'elles viennent tous les ans, donc elles savent que c'est ouvert. Alors elles reviennent tous les ans, elles me disent « j'étais là l'année dernière, je viens tous les ans ». Et bah, on a aussi beaucoup de visiteurs qui viennent de Haute-Normandie, de France tout simplement, ou de pays étrangers. Beaucoup de personnes britanniques cette année, j'ai trouvé, ce qui est fort intéressant parce que finalement on peut discuter un petit peu. Eux aussi, en Grande-Bretagne, ils ont très 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 souffert de la Seconde Guerre mondiale, donc ça crée beaucoup de dialogues et beaucoup d'échanges et c'est vraiment très très intéressant. Donc au niveau de la fréquentation, bah, on peut dire qu'on a vraiment des personnes qui viennent de toutes parts de la France et de l'Europe et même parfois des États-Unis, de pays assez lointains. Oui.
Un petit rappel sur l'exposition avant les bombardements, installée donc dans cette Porte Horloge. Pour le mois d'août, elle sera ouverte au public jusqu'au 31 août, du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et l'entrée est libre et gratuite. Vous pouvez d'ailleurs compléter cette exposition par d'autres panneaux de Vire avant les bombardements, installés au square de Totnes, près de la mairie. À Bayeux, ouverture des concerts d'orgue. Ce soir, le bal des concerts d'orgue débute à la cathédrale. Le premier concert de ce mois d'août sera interprété par l'organiste Valentin Monin qui, âgé de 33 ans, a déjà gagné plusieurs prix. Il jouera une œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach, la Toccata, mais aussi également des morceaux du XVIIe siècle du compositeur José Jiménez. Plusieurs œuvres aux origines diverses donc seront proposées sur l'orgue. Je vous vous rappelle, daté de 1862, un orgue classé au titre des monuments historiques. Dans cette cathédrale de Bayeux, le rendez-vous est donc fixé ce soir à 21h, l'entrée est libre. Mercredi, à l'hôtel des ventes de Bayeux, il y a eu une nouvelle vente aux enchères. Troisième rendez-vous de l'été. Les 200 lots ont été vendus avec, encore une fois, une très nombreuse clientèle sous la présidence de Maître Bailleul. Des étudiants étaient également présents pour prêter main forte pour cette organisation. Les prochains rendez-vous aux enchères de ce type auront lieu au mois d'août, ainsi que des ventes de mobilier et bibelots du 17e et 18e siècle, lors de la reconstitution du camp de Vaucieux les 17 et 18 août. Alors, notez également donc les prochaines sessions de ce marathon de vente d'été, jeudi 8 et samedi 10 août, à l'hôtel des ventes de Bayeux. Prudence sur les routes ce week-end, un week-end classé noir, et prudence également au bord de la mer avec de forts coefficients de marée attendus dès aujourd'hui jusqu'au lundi 5 août sur le littoral du Calvados et de la Manche, avec des coefficients pouvant aller jusqu'à 104 pour demain samedi. Des coefficients qui vont donc attirer de nombreuses personnes sur le littoral. Ainsi, le préfet maritime appelle, je cite, tous les usagers de la mer à la plus grande prudence, et en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral. Quelques minutes peuvent parfois, rappelle-t-il, suffire pour être isolés par la marée montante. Le 17 juillet dernier, un non-lieu général a été prononcé par les juges d'instruction parisiens chargés de l'affaire de l'exposition à l'amiante de l'usine Ferrodo-Valeo de Condé-sur-Noireau. L'union locale CGT de Condé en Normandie se dit scandalisée par cette décision dans un communiqué de presse qu'elle vient de faire parvenir. Je la cite, selon les juges, il serait impossible de dater l'intoxication des salariés à l'amiante. À en croire le jugement, l'amiante serait un jour toxique et pas du tout un autre jour, mais de qui se moque-t-on ? Quelle que soit la date d'entrée dans l'entreprise, il est indéniable que le salarié risquait la contamination, estime le syndicat. Pour l'union locale CGT de Condé, il est hors de question d'arrêter le combat. Une nouvelle fois, c'est l'intérêt financier des puissants qui prime. Au détriment des misérables, il est inadmissible que des salariés puissent perdre la vie pour avoir en toute simplicité voulu vivre décemment. La lutte continue jusqu'à l'obtention d'une vraie justice, poursuit le syndicat Condé. Les faits divers avec une voiture qui a percuté un piéton vers 7h hier matin près de l'église Saint-Patrice à Bayeux. L'homme d'une trentaine d'années a une fracture du col du fémur. L'enquête est en cours et la victime sera auditionnée pour éclaircir les circonstances de cette collision. Le sport et le championnat de France de football de Ligue 2, deuxième journée déjà ce soir, donc une journée à laquelle ne participe pas le Stade Malherbe de Caen puisque le match est décalé à lundi soir à 20h45, des Canets qui recevront le club de Lorient avec une attaque dépourvue d'éléments décisifs puisque, on l'a appris hier soir, Casimir Ninga va rejoindre le SCO d'Angers. L'attaquant Canet qui a été vendu pour une somme aux alentours de 3,5 millions. Dans la foulée également, alors qu'il arrivait en provenance du club espagnol de Getafe, Faisal Farge, eh bien, effectivement, effectue le chemin inverse. Le milieu de terrain du Stade Malherbe de Caen retrouve donc son club après une saison uniquement donc en Ligue 1 au sein du Stade Malherbe de Caen. Des Canets qui devront trouver des solutions offensives très rapidement pour être aussi ambitieux que les Lorientais qu'ils recevront lundi soir. Des Lorientais qui ont déjà mis 3 buts lors de leur première sortie.